Les rendez-vous de l'été, c'est jusqu'à 13h avec, et c'est très attendu, comme à chaque fois évidemment, la nuit des étoiles. Et c'est justement le thème que vous avez choisi, Nicolas, pour bien terminer la semaine, pour nous parler de cette nuit des étoiles. Bonjour.
Et bonjour Thierry, bonjour à tous. Et oui, c'est un rendez-vous annuel que nombreux d'entre nous aiment partager. Un événement national porté localement par des assos, des clubs d'astronomie. Je parle bien sûr de la nuit des étoiles, même les nuits des étoiles. Pour en parler, je reçois ce midi Luc Girardin, bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Gonnord, bonjour.
Bonjour.
Vous faites tous les deux partie de l'Astro Club. On dit donc les nuits des étoiles parce que ça s'étale sur le 11, 12 et 13 août. Chaque année, il y a un thème. Cette année, le thème, c'est Luc.
Les poussières d'étoiles.
Les poussières d'étoiles, c'est le thème de cette année. Je l'ai dit, 11, 12, 13, pourquoi ces dates précisément? Pourquoi ces dates-là?
Eh bien, ce sont des dates qui sont prédéterminées par l'Association française d'astronomie.
Ouais.
Donc c'est au niveau national, c'est une fête du ciel. On appelle ça la nuit des étoiles, mais il y en a plusieurs dans l'année, des pluies d'étoiles filantes. Il y en a l'hiver, il y en a toutes les saisons.
Oui, parce qu'il y a un événement particulier pendant ces dates-là.
Voilà. C'est la nuit des Perséides, qu'on appelle ça, c'est-à-dire le dernier passage de la comète Swift-Tuttle il y a quelques années, qui laisse de la poussière cosmique, et lorsque la Terre rentre par son orbite autour du Soleil dans ce nuage de poussière issu des comètes, ça fait des étoiles filantes.
Et donc dans le ciel, il y en aura plus?
Théoriquement, voilà. Et ça commence à s'estomper un petit peu, parce que cette comète est passée il y a quand même quelques dizaines d'années.
D'accord.
Mais régulièrement, le voyage de la Terre autour du Soleil croise des poussières que les comètes ont laissées à l'approche du Soleil. Elles ont dégazé, comme on dit. Et quand la vitesse de la Terre sur son orbite rencontre ces poussières interstellaires, elles brûlent dans la haute atmosphère en formant ce qu'on appelle des étoiles filantes.
D'accord.
Et le maximum est attendu pour demain, justement, samedi.
D'accord, le maximum, donc on pourra en voir, il y a des moyennes, c'est ça?
Logiquement, oui, il y a toujours des périodes où il y en a un peu plus, et donc demain, le maximum est prévu, mais c'est toujours incertain, ça dépend de beaucoup de paramètres, et en fonction des années, elles sont plus ou moins intenses, ça dépend vraiment.
Et donc on voit des étoiles filantes, est-ce que ce sont des météorites?
Ça peut, mais logiquement, comme disait Luc, c'est plus des comètes. Donc les comètes, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus composé d'eau. Donc en D'accord. fait, elles se décomposent beaucoup plus facilement et souvent, il n'y a presque rien qui arrive sur Terre.
D'accord. Alors samedi, vous organisez donc une soirée à la Commanderie de Coudry. C'est le lieu idéal pour regarder le ciel nocturne.
Bien, moi j'apprécie beaucoup parce que déjà on a un ciel très propre et c'est surtout qu'on est dans une ancienne commanderie de Templiers ouais. et nous qui sommes on va dire un peu historiens du système solaire ouais. d'aller dans un site comme ça chargé d'histoire et de science, bien déjà le fait d'observer, d'installer le matériel là, ça donne un environnement vraiment agréable quoi.
Et le paysage est dégagé, c'est ça ou
ouais, suffisamment. Sur les objets un peu bas sur l'horizon, on est gêné par quelques arbres et quelques constructions.
On se place où il faut quand même ouais. pour pouvoir voilà. observer le mieux possible.
Donc vous prévoyez donc tout un programme d'animation. Samedi dans l'après-midi, ça commence à partir de 16h. On commence avec un atelier à fabrication de cadrans solaires.
C'est ça? Voilà. Et puis, on va fabriquer aussi un petit cadran qui permet de déterminer l'heure à partir de la constellation de la Grande Ourse.
D'accord.
Ce sont des objets qui datent de l'Antiquité, qui servaient à l'époque de repère et de pendule, ouais, en ouais, quelque ouais. sorte, pour donner l'heure.
Il y a d'autres ateliers, ateliers sur le système solaire, ateliers sur le vide et dans l'espace, et observation du soleil au télescope. J'imagine qu'on ne fait pas n'importe comment pour regarder le soleil
non,
au télescope.
Non, surtout quand avant chaque observation sur le soleil, on briefe toujours les gens en disant c'est très très dangereux le soleil, il faut vraiment observer dans des instruments adaptés, faits pour, on va dire, avec des filtres astronomiques. Donc, surtout pour les enfants, ne pas s'amuser qu'une simple paire de jumelles ou même des lunettes de soleil très puissantes. Nous, au club, on n'a que du matériel qui est vraiment destiné au soleil.
Oui, on fait très attention.
Sans danger.
On fait très attention. Qu'est-ce qu'on voit dans le télescope quand on regarde le soleil?
On voit des protubérances, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, et on voit aussi des taches solaires, ce qui est en interne, en fait, des taches noires, où la température est moins intense, donc ça révèle beaucoup moins.
On va voir aussi l'imagerie du soleil en direct, on va pouvoir voir sur un écran, c'est ça?
Oui, voilà, un membre du club a fabriqué ce qu'on appelle le Solex, le Solar Explorer, qui va donner une image du soleil dans toutes les longueurs d'onde du domaine visible et invisible à notre œil. C'est assez phénoménal. Et là, on voit, sans avoir besoin d'une éclipse, on voit des protubérances, on voit tout ce...
Qu'est-ce que c'est une protubérance ?
Eh bien, c'est un jet de matière du Soleil.
D'accord.
Hein, qui peut monter au-delà de la surface du Soleil, redescendre vers une autre tache solaire, ou si elle est vraiment très importante, elle peut se briser. Et là, on a des particules qui s'en vont dans l'espace et qui peuvent donner des tempêtes solaires arrivées sur Terre. Ce sont des particules électromagnétiques chargées, très énergétiques, qui peuvent perturber, comme ici pour votre radio, par exemple, si on a une très puissante, donner des pannes, voire carrément mettre du matériel hors service.
Ah ouais, c'est très puissant. Il y aura aussi une exposition d'astrophotographie amateur faite par les membres du club, atelier fusée à air, et puis une exposition de météorites.
Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait. Oui. Donc c'est Patrice Guérin, donc qui ne fait pas partie du club, qui vient nous présenter en fait toutes ces météorites. C'est vraiment une très belle collection. Et cette année, il nous réserve quelques surprises en fait avec des impactites. Mm-hmm. Donc les impactites, c'est les roches qui sont impactées par les météorites, par les cratères de météorites.
D'accord.
Donc il faut vraiment venir le découvrir parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'avoir ces météorites sur Chalon. C'est quand même il y a des morceaux qui sont vraiment très impressionnants.
Il y en a de toutes les tailles.
Il y en a de toutes les tailles et de tous les types. En fait, il y a différents types de météorites.
D'accord.
Et donc il y en a qui sont très jolis, c'est quand même impressionnant de voir cette pierre, cette matière qui vient de l'espace, et il y aura vraiment beaucoup d'échantillons, donc il faut venir voir tout ça.
Dans la soirée, il y aura deux conférences. La première, c'est celle de Philippe Briden sur les météorites témoins du passé, c'est-à-dire témoins du passé.
Eh bien, ces météorites, déjà le terme météorite, c'est un morceau d'astéroïde qui touche le sol terrestre.
D'accord.
Tant qu'il est en l'air, c'est un astéroïde, un corps. Après, ça D'accord. peut être un météore quand il brûle dans le ciel, mais quand il touche le sol, quand une partie de ce rocher à l'origine touche le sol, c'est une météorite.
Okay.
Et donc, ces objets sont très recherchés parce que ce sont les témoins du système solaire. Ce sont ni plus ni moins les fossiles de la création du Soleil et du système solaire. Ce sont des roches qui erraient dans l'espace, donc qui n'ont été... impacté par rien d'autre que les premiers matériaux de cette formation issue de la nébuleuse protosolaire.
Ouais.
Donc c'est vraiment l'histoire du passé du système solaire que l'on retrouve dans ces météorites.
Et ça va rejoindre la deuxième conférence qui est la vôtre. Thierry, qu'est-ce
Tout
que vous allez
fait.
Présenter ?
Donc moi je vais la première conférence où il sera sur les météorites, et donc la seconde est vraiment complémentaire, c'est sur les astéroïdes, c'est les corps sources justement des météorites.
Ouais.
Et donc on va faire un petit voyage spatio-temporel, rien que ça. Et donc ça va nous amener d'une première partie à découvrir en fait la création de l'univers et du système solaire pour comprendre d'où viennent ces météorites.
Donc on revient depuis le Big Bang. Donc,
voilà, tout à fait, très rapidement, et vraiment on va pas y passer des heures, mais et ensuite, donc une deuxième partie pour comprendre les connaissances humaines. Quand l'humain a-t-il compris en fait qu'il n'y avait que le système solaire ne se résumait pas uniquement à un soleil et 8 ou 9 planètes.
Ouais.
Et donc ensuite, on fera une visite guidée. Donc comme ça sera un voyage spatio-temporel, on peut se le permettre d'aller visiter quelques astéroïdes et surtout les lieux où il y a des grosses concentrations d'astéroïdes pour comprendre en fait vraiment justement ce qu'ils sont et comprendre justement l'intérêt qu'on a à les comprendre, aussi bien pour se protéger en fait à l'avenir d'une éventuelle chute que d'autre part pour comprendre comment s'est formé le système solaire et la planète Terre en particulier.
Est-ce qu'actuellement des astéroïdes nous menacent ?
Pas à court terme, non, il n'y en a aucun. Il y a une échelle qui est en place pour justement évaluer le risque.
D'accord.
Et actuellement, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui... Je rassure les auditeurs, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui nous menace particulièrement, mais il faut le prévoir à long terme, c'est-à-dire que plus on s'y prend tôt, plus on peut les dévier rapidement, donc, et d'une manière intense. Mmh. Donc en fait, il faut aussi, même si on en découvre un pour dans 100 ans, il faudrait s'y prendre assez rapidement pour le dévier le plus tôt possible. C'était le principe de la mission DART.
Ouais.
En fait, il y a eu un impact qu'on a pu suivre il y a quelques mois, et donc ils ont commencé. Donc les scientifiques ont commencé à étudier justement les conséquences d'un impact sur un astéroïde.
D'accord. Mmh. Et ben on continue de parler de ces nuits des étoiles juste après une pause musicale.
Après Enwar sur Dove, Easy One.
In the early morning,
c'était Ziwan à l'instant sur Novi. On y retourne, c'est passionnant, la nuit des étoiles ce week-end, Nicolas, avec vos invités jusqu'à 13h.
Ah oui, avec Luc Girardin et Thierry Gonard. Gonard, pour de l'Astro Club Chalandais, on parlait de toutes ces conférences qu'il va y avoir demain soir. Et puis à partir de 23h, il y a l'observation du ciel nocturne, si le temps le permet. En tout cas, normalement, ça devrait le faire. À partir de 23h, c'est l'heure où il fait complètement noir.
Oh, complètement noir, en ce moment, c'est pas très facile d'avoir le noir complet, mais disons qu'à partir de 22h30, 23h, on peut déjà commencer à viser certains objets lumineux, des étoiles principalement, et puis quand les personnes viennent mettre l'œil à l'oculaire, on essaye d'expliquer un peu ce qu'on regarde, l'étoile, où elle est située, quelle température elle peut avoir, ce que c'est qu'une étoile, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent pas comment fonctionne une étoile, c'est très complexe quand même malgré tout, ça peut être simple mais très complexe. Donc normalement, on devrait avoir la chance de pouvoir, s'il y a quelques nuages, on arrive toujours à viser quelques objets quand même. On reste positif.
Vous avez quel matériel à l'Astroclub? J'imagine que vous avez des gros télescopes pour voir le ciel profond. Qu'est-ce que c'est le ciel profond?
Le ciel profond, c'est tous les objets faibles qui sortent un petit peu, qui sont très éloignés dans notre galaxie, ou voire des galaxies autres que la nôtre, donc situées à des millions d'années-lumière. On a des télescopes, comme Thierry a un très beau télescope de style Dobson, ça on l'expliquera quand les gens viendront voir. Ouais. Moi j'ai une lunette astronomique qui est plus destinée, on va dire, au planétaire, mais qui marche quand même sur le ciel profond, qui a une très bonne, un très bon piqué d'image.
D'accord.
On a plusieurs types de télescopes, en fait, ça va des jumelles jusqu'au télescope de 400 mm de diamètre.
Les lunettes qui sont avec des lentilles, et il y a les télescopes qui sont plus avec des miroirs, pour faire
d'accord,
ça.
D'accord, ouais, voilà, ok. On l'a dit aussi, il y aura une jolie expo photo samedi. L'astrophotographie, ça fonctionne plutôt bien. On voit beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, notamment des images aussi du télescope James Webb. Elles font des millions de vues à chaque publication. C'est une belle façon de mettre en avant l'astronomie.
Oui, tout à fait. Oui, c'est surtout une révolution. En fait, c'est vrai qu'on observe aujourd'hui dans l'infrarouge en orbite, et donc ça permet de voir des choses qui n'étaient pas observables avant.
Puisque James Webb, il est pas sur Terre.
Il est pas sur Terre. Il est en orbite. Il a un point de Lagrange qui est un point à peu près. Enfin, c'est assez complexe, qui est assez stable. Et donc ça permet justement de voir des objets, puisqu'il n'y a pas l'atmosphère terrestre qui perturbe, ça permet de voir des objets très loin, et très loin dans le temps, puisque plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Ouais. Et donc ça permet justement de comprendre des choses qui étaient supposées avant, au niveau de la création de l'univers principalement.
Ouais. Outre la mise en avant de l'astronomie, c'est surtout un petit puissant, vous l'avez dit, pour faire des découvertes. Est-ce que au sein de l'Astro Club, vous suivez les récentes recherches? J'imagine que oui.
Oui, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui suit des recherches. On les partage sur le site Discord sur lequel on est inscrit. Et j'en viens pour ce que vous disiez tout à l'heure, l'astrophotographie, moi, c'est pas du tout mon truc.
Ouais.
Ça me semble complexe et j'ai peur de... C'est trop technique au niveau tout ce qui est logiciel informatique, mais par exemple, on a 3-4 membres au club où ils font de la photographie du ciel profond qui est magnifique.
Ouais. Je confirme.
comment on en vient à l'astronomie Luc, par exemple, comment vous en êtes venu à l'astronomie?
J'en suis venu quand j'étais ado, j'avais 14-15 ans. Je commençais à regarder un peu les étoiles, à vaguement comprendre ce que c'était que la Lune. Bon, j'étais pas non plus complètement bête à l'époque quand même. Et mon beau-frère, qui est toujours de ce monde, à Noël m'a offert un livre d'astronomie et ça a été ce qui a tout déclenché. Je l'ai toujours gardé, ce livre d'ailleurs. Et après, c'est comme une passion, c'est un virus, hein, ça vous prend, ça vous lâche plus, quoi. On en sait, on a l'impression de ne pas en savoir assez, on en apprend, il y en a qui repartent, donc on revient dessus. Et après, c'est toute une vie de passion, hein, comme beaucoup d'autres passions, je pense d'ailleurs, mais effectivement, voilà, moi ça a été la mienne, et puis je suis toujours dedans, et j'espère y rester encore un petit peu.
Une passion qui passionne beaucoup de monde, qui intéresse beaucoup de monde, et on a tous plein de questions. Notamment, il y a une question qui, je pense, doit vous revenir souvent à l'Astro Club. Sommes-nous seuls sur Terre?
Ah, c'est la question dans l'univers.
Sommes-nous seuls dans l'univers?
Alors là, si Thierry veut prendre la parole ou moi.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Est-ce qu'on vous la pose souvent à l'Astro Club?
Oui, forcément. Quand on lève les yeux au ciel, on se pose toujours la question, sommes-nous seuls? Ouais. Enfin, c'est un peu évident de se poser cette question. Après, je pense que personne ne peut donner une réponse affirmative aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, il y a des hypothèses. On avance justement, ne serait-ce que en étudiant les météorites, en étudiant Mars. Justement, on a des rovers qui sont sur Mars, qui donne des informations aussi. On avance sur le sujet. Après, aujourd'hui, donner une réponse claire et définitive sur le sujet, ça serait un peu prétentieux à mon avis.
Vous en parlez entre vous au sein du club?
Oui, quelquefois. Moi, je suis partagé par mon côté un peu cartésien en attendant vraiment des découvertes, parce qu'il y en a eu d'annoncées sur Internet. Dans l'atmosphère de Vénus, ils avaient trouvé de la phosphine qui est qui fait partie du génome humain, du vivant. Mais ça peut être créé tout à fait naturellement. Donc moi, je me méfie un peu, mais... Quand on analyse sur Terre la façon à laquelle maintenant on arrive à communiquer, mais on s'éloigne pas tellement plus que la Lune, à part pour les sondes spatiales, tous ces paramètres qu'il a fallu pour que la vie apparaisse sur Terre, ouais. C'est vraiment quand même très pointu. Ouais. La vie, elle peut exister, moi, oui, je pense, sous forme microbiotique ou cellulaire, bien entendu, peut-être plus développer autre chose, mais je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Franchement, c'est un domaine de recherche, l'exobiologie, qui est passionnant, mais dans lequel on commence seulement à évoluer un petit peu.
Alors, ce week-end, de nombreux curieux vont lever les yeux vers le ciel nocturne et verront passer des étoiles filantes, on l'a dit. Mais sur les réseaux sociaux, depuis quelques temps, des gens ont pu voir et même filmer des lignes de points lumineux à la queue leu leu, une vingtaine. Est-ce qu'on vous en a déjà parlé, peut-être? Est-ce que vous avez vu passer ces images?
Bien sûr, oui. Enfin, pas seulement vu passer les images, mais vu passer en vrai.
Ouais. Et qu'est-ce que c'est?
Donc, en fait, c'est plusieurs petits points, même mon père que je salue. M'a appelé pour me poser la question ce que c'était ces petits points qui se suivaient dans le ciel. Et en fait, c'est tout simplement des trains de satellites Starlink qui sont lancés, en fait, qui se suivent dans les heures qui suivent le lancement, ils se suivent. Ouais. Et après, plus ça va, plus ils s'éloignent les uns des autres. Donc on ne voit pas qu'ils suivent la même ligne dans le ciel. Et donc c'est pour les réseaux de télécommunications, pour distribuer Internet dans le monde.
Starlink, ouais. lancé par Elon Musk.
Tout à fait, oui.
Et plus largement, ça pose aussi peut-être la question de la pollution du ciel, la pollution lumineuse, tout ça. Est-ce qu'au Astro Club...
C'est un petit peu l'ennemi après la météo des photographies du ciel profond à longue pause en caméra. C'est que s'il passe un satellite ou un train de satellite à ce moment-là dans le champ de vision de la caméra, l'observateur ne va peut-être pas l'anticiper. S'il n'est pas observé le ciel en même temps, mais sur la photographie, par exemple, ça fait une belle traînée lumineuse qui peut gâcher une photo sur laquelle on a travaillé toute la nuit, quoi.
Oui.
Oui, voilà.
Ça peut tout gâcher. Il nous reste une minute et j'avais tellement d'autres questions, c'est dommage. Juste pour préciser aussi que le 18 août, vous organisez aussi une nouvelle soirée découverte comme celle de mois de juillet. Comment ça s'organise rapidement?
Oui, c'est sur le site de la salle des Noues à Chalands, près de l'hippodrome. Là, il y a une petite conférence en salle sur la présentation des activités du club. Ouais. Et après, il y a l'observation du ciel nocturne pour faire découvrir au commun des mortels la vie de l'association et puis l'astronomie. Quoi,
Et donc, demain soir, c'est à partir de 16h, à la commanderie de Coudry, c'est ça?
Oui,
directement.
Exactement.
Est-ce qu'il faut s'inscrire?
Non, c'est entrée libre.
Restauration sur place.
Ok, super. Et ben voilà, j'avais d'autres questions, notamment sur les météorites, etc. Mais...
On peut déborder, hein.
On peut déborder, c'est vrai.
On peut être là jusqu'à 17h, vous avez l'après-midi, non?
Allez,
Moi j'ai une question, comment ça se fait que il paraît que dans l'espace, il n'y a pas de bruit. C'est comme une tombe, quoi. Il n'y a pas de son.
Ouais. Le son, pour se développer, il a besoin d'un support.
D'accord.
Le meilleur son que l'on puisse rendre, et ce qui n'est pas une erreur pour les personnes qui ont regardé des films sur les sous-marins, quand les gens tapent avec une clé à molette sur la coque en cas de détresse, hein, quand la radio est HS, bien sûr, eh bien, le son dans l'eau se propage très très bien.
D'accord.
Et dans l'espace, eh bien, l'erreur des films où pour le cinéma, pour mettre un peu de bruit dans le film. On entend toujours une fusée qui vrombit, qui fait non, ça n'existe pas. Dans un silence total.
D'accord, bon, c'est un peu flippant quand même, hein. C'est vrai.
Ah bah oui.
Flippant et passionnant.
Et passionnant.
Ah bah grave.
Exactement. Donc les Nuits des Étoiles, c'est demain soir à la Commanderie de Coudry à Chaland, avec l'Astroclub Chalandais.
Et allez-y, la météo devrait être plutôt
niveau météo, ça devrait.
Ouais, ça va le faire. Merci messieurs.
Merci à vous
surtout.
Merci Nico. L'émission en podcast très vite à 9fm.fr et bien sûr notre appli.